Dominique Aubert, le photojournaliste devenu pilote de ligne, deuxième épisode.
Avant de prendre les commandes d'un avion de ligne, dans ce deuxième épisode, Dominique Aubert nous raconte les planques qui l'amusaient. Celle de Georges Marchais, l'ancien leader du PCF, et celle de René Bousquet, le collabo ami de François Mitterrand. Il parle aussi des guerres qu'il n'aimait pas. L'Angola, l'Ouganda, et l'Afghanistan qui lui vaudra une invitation au premier festival Visa pour l'image en 1989. Et avec émotion, il parle aussi d'un moment incroyable où le photojournaliste et le copilote se trouvent confrontés à un terrible souvenir. Bonne écoute.
J'ai fait une très grosse bêtise, j'ai signé un contrat de salarié. C'est comme ça que j'ai compris d'une manière intrinsèque que j'avais très, très, très mal géré ma carrière. Je me suis fait vraiment... C'était en tout cas le contrat qu'il fallait pas signer, quoi. J'ai signé un contrat de salarié, j'aurais jamais dû faire ça. En tout cas, je l'ai fait, je l'assume. Hubert Henrot, il m'a pas attaché les mains dans le dos. Mais c'est le pire contrat que j'ai jamais signé de ma vie, quoi. Ça, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs un contrat qui m'a causé beaucoup, beaucoup de problèmes par la suite, quoi.
Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui t'a causé comme problème à ce moment-là ?
J'avais une sécurité de l'emploi, et au fait, c'était débile et bête, quoi. J'ai fait quelque chose de bête, et en fait, j'en avais pas besoin. J'en avais pas besoin. J'étais plus propriétaire de mes supports. J'avais le contrôle sur la propriété intellectuelle, comme tu le sais, mais sur les celluloïdes, sur les hectas, sur les Kodachrome, sur le FP4, sur le HP5, sur les Trizix, sur les Plus X, sur toute la famille des celluloïdes, les celluloïdes ne m'appartenaient plus. Je n'avais plus qu'un contrôle sur la propriété intellectuelle, certes. Mais sur la famille des celluloïdes, plus rien. Et j'ai compris l'ampleur, c'était une folie. Ce que j'ai signé, c'était une folie. Une folie, je le reconnais.
Et comment ça se fait ? Tu as été le seul à signer tout ça ou de...
Non, on a été plusieurs. On a été plusieurs, diable, plusieurs. Et c'est plus tard que j'ai reconnu la folie de mon entreprise. Et puis donc je suis retourné, j'ai fait plein de trucs, je faisais des planques, j'aimais bien les planques, j'ai planqué Marchais. Et ça me faisait rire parce que, bon d'abord ça faisait du mal à personne, on a fait un petit peu les voyous, on a toujours avec Durand qui était, j'aimais bien Durand sur ces coups-là parce qu'il était très mariole, il trouvait des solutions à un problème. Alors exemple, on arrivait chez Marchais à Champigny-sur-Marne. Il habitait Champigny-sur-Marne. On avait fait un véritable travail d'équipe. On était très complémentaires. On avait dit, pour ne pas se faire voir, il faut être en contre-jour. Bien. Donc on est allé dans la zone de contre-jour. Dans les appartements qui étaient en contre-jour, on a dragué une gonzesse qui nous a laissé monter à l'étage en fracturant un sas, un vasistas, un truc comme ça. Et avec l'échelle de pompier, on est allé. Et au fait, on est arrivé, il devait être quoi ? Il y a la photo là, 16-17 heures, il ne pouvait pas nous voir. On l'avait en slip de bain, dans sa chaise roulante, avec une Cronenbourg en train de lire l'humain. Enfin, c'était très sympa, quoi. Mais parce que tout avait bien marché, quoi. Alors, on faisait des choses comme ça. Et ça, j'aimais bien ça. Il y avait un truc marrant chez Sigma, c'était tous les jeudis, je crois, il y avait une conférence de rédaction. Et je me rappellerai toujours, dans le bureau du Hubert Henrot, il y avait un espèce de pilier comme ça, tu sais, un pilier. Et quand on parlait des reportages que les photographes ne voulaient pas faire, les photographes se mettaient derrière le pilier pour pas qu'on les voie, quoi. Mais c'était l'école. Et puis un jour, ça remuait beaucoup autour de ce René Bousquet. René Bousquet qui était le chef de la police de Vichy, qui vivait toujours à Paris. Et il était dans le bottin, dans l'annuaire. Bah, à l'époque, il y avait encore des annuaires. Et il habitait avenue Raphaël. Et moi, comme ça, bêtement, je dis, j'habite de l'autre côté du bois de Boulogne, pour aller à Sigma en moto, je passe avenue Raphaël. Donc je peux très facilement m'arrêter tous les jours et checker, quoi. Et un jour, mais je sais pas, moi, 3 mois après, quoi, j'avais dit ce que je ferais, je m'arrêterai, je verrai. Et il y avait Bousquet qui était là avec son clébard, un berger allemand. Il me voit, mais il lâche son chien sur moi. Alors je le fais, et je le fais à son balcon le lendemain, et j'ai eu des parutions partout. Voilà, je faisais ça, des trucs comme ça. Ça me faisait, j'aimais bien ça. Tu vois ?
Ouais, c'était rigolo.
C'était René Bousquet quand même. C'est quand même, oui. C'est pas rien, hein. Quand on parle, quand on regarde les anniversaires qu'il y a sur pour le Veldiv, et le Veldiv, c'est René Bousquet, hein.
Le copain de Mitterrand.
Oui, tu peux le dire, oui, bien sûr. Il allait bouffer à la Tché et tout ça, quoi. Bon, j'ai eu une chance inouïe ensuite. En Afghanistan, je suis parti en reportage avec une équipe de la 5 et avec un mec avec qui je me suis lié d'une grande amitié qui s'appelait Jean-Louis Calderon. On est devenus amis, vraiment amis. Et on a fait un reportage en Afghanistan qui a été inouï. J'ai eu une chance inouïe. On a tout eu avec donc moi, l'équipe de la 5, animée par Jean-Louis Calderon et Franck Vielgeux, un ancien de Sigma d'ailleurs, et Franck Vielgeux. Alors là, j'ai eu tout. Tout. J'ai eu cette chance-là, j'ai eu tout. Et c'est le reportage, c'est ce reportage qui a été remarqué par Jean-François Leroy pour le premier festival de Visa pour l'image. Alors là, on est en 1989. Ça fait 34 ans. Alors là, j'étais avec les grands. Pour la première fois de ma vie, j'étais avec les grands. Il y a même David Bailey qui était là.
Mais avec Jean-Louis Calderon en Afghanistan, vous avez fait quoi ?
Eh bien, on était dans un groupe de Moudjahidines qui ont repris 2 casernes sur le bord d'une route. Et ils les ont terrassées. On pense qu'il y avait des Russes. Ce qu'ils ont laissé derrière eux, les Russes ont réussi à s'enfuir, ce sont les Afghans de l'armée régulière. Comme souvent, quoi. C'était pas très joli à voir, quoi. Et c'était très difficile. Ils ont voulu tuer des soldats pour nous. Ouais, c'est compliqué, quoi. Non, vous tuez personne. Vous faites prisonnier, tout ça, mais nous, on pose les caméras, quoi. Tu vois, c'est les choses... tu te retrouves dans les trucs compliqués, quoi, tu vois. Jean-Louis, t'es pas content de ça. Ils avaient été faire de la reconnaissance pour savoir si on pouvait s'approcher. Ils sont revenus avec 2 morts et 1 blessé grave parce qu'ils étaient tombés sur une mine. Marie-Marche a publié les photos. Et celui il a plus de visage, quoi, il a plus rien. Alors on dormait sur le bord de la route, tu vois, et moi et Jean-Louis on dormait côte à côte. Et le type tué sur le type qui a été blessé par une mine, il dormait juste à côté de moi. On l'a entendu toute la nuit en souffrance, quoi. Et le matin il était mort. Tu vois, c'est compliqué tout ça, quoi. Bon, tout ça, ça me plaisait pas. Alors je te dis pas que. Parce qu'il est impossible de parler de ce métier sans parler de la consécration pour un photographe. C'est la consécration pour un photographe, je vais te dire, c'est d'avoir sa photo dans le journal. Mais c'est vrai, hein. Tu appuies sur le bouton et tu retrouves ta photo. C'est ça la récompense. C'est d'avoir ta photo à toi, que tu appuies sur le bouton dans le journal. C'est ça. C'est ça pour un photographe.
C'est la publication.
C'est la publication, c'est la sanction. T'as été publié. Alors là-dessus, sur ces sous-là, j'ai été vraiment bien publié, j'étais content. Mais malgré ça, moi, j'étais de moins en moins à l'aise. Ça me plaisait plus, quoi. J'avais fait le tour. Mais je me voyais pas, en tout cas. Moi, j'assume, hein, je te dis tout. Je suis franc comme l'or, hein. Je veux dire, je suis franc comme l'or. Je te dis, je me voyais pas vieillir dans ce métier. Pour moi, c'était pas possible. Impossible. J'avais deux. Alors, j'ai eu. Alors, après des reportages, j'en ai. On peut commenter les pages, si tu veux, ça sera plus simple. Mais j'en ai plein, quand même, à te montrer, parce que j'ai une carrière courte, quand même, à Sigma.
Rappelle-toi. L'Afrique.
En Afrique, j'ai été en Angola. Bon, alors là, c'était vraiment. C'était des mises en scène pour les photographes. Pour la presse, c'était pas très intéressant. C'est pas intéressant. Donc, ça fait pas des photos très intéressantes. Ça fait des parutions, mais c'est pas des reportages intéressants. Alors, on va vous montrer comment on se sert de ça. Bon, on va pas rester en plein soleil. Bon, alors, à l'époque, il n'y avait pas de numérique, donc On faisait un rouleau, quoi, mais pas plus. Ça veut dire 36 vues. Mais c'est pas intéressant. En tout cas, c'est pas vrai. C'est pas réel. En Afrique, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai été en Ouganda. Alors là, c'était un des pays les plus dangereux que j'ai jamais vu. C'est pareil. Quand c'est dangereux, on fait pas beaucoup de photos.
Qu'est-ce qui était dangereux en Ouganda ?
En Ouganda, les gens, ils étaient sous influence de stupéfiants ou sous influence de l'alcool. Par exemple, ça c'est un reportage que j'ai fait avant de rentrer chez Sigma. Je l'ai fait, je vais y aller et puis je vais essayer de vendre mes photos. Tu vois le machin ? Alors j'y suis allé, j'ai fait des photos. Et puis je me suis rendu compte, mais dans quelle folie tu t'es machin, et puis c'était vraiment dangereux, et puis j'étais super trouillard, quoi, tu vois. Mais j'y allais quand même, bon. Et un jour, j'étais content parce que je suis tombé sur un journaliste anglais du Financial Times. J'ai l'impression qu'il allait au boulot à Fleet Street. Mais non, on allait dans les routes où il y avait des soldats. Enfin, tu t'es pas trompé, là ? Tu veux pas être un peu plus... Non, non, il était en costard, tu vois ? Il était comme ça. Comme quoi, on peut voir des choses dramatiques, mais très drôles aussi. Et puis on arrive dans un... Je me souviens, c'était un village qui s'appelait Mazaka. Tu vois, je me souviens de ça, Mazaka. Et puis on arrive, on est arrivé parce qu'on voyait des tas de villageois qui couraient, qui s'enfuyaient, apeurés. Apeurés. Tiens, on s'est dit, on doit être dans le bon sens alors. Allons-y. Le chauffeur nous dit non, c'est trop dangereux. Si, il faut y aller. Et là, je me souviendrai toujours, on arrive en haut d'une petite colline. C'était une route qui était, carrossable, mais avec des trous. On arrive en haut d'une route. Et au fait, en haut de cette petite route, on redescend et on s'est jeté dans la gueule du loup. Et on s'est retrouvé dans un petit village, tout le monde était mort. Tout le monde était mort. Et les soldats étaient là. Mais tu sais, les soldats, je me souviens, j'ai fait une photo, et je l'ai toujours la photo, d'un soldat qui était, il a un pétard comme ça, et il a des bottes de pêcheur, mais il a deux pieds gauches, quoi, il a deux bottes gauches. Tu vois, je me suis dit, putain, lui, t'as vu ? Et j'ai fait une photo, et là, ils se sont rués vers moi. Là. Et le journaliste anglais est intervenu pour dire, non, il voulait pas, non. Et j'ai donné un faux film, j'ai dit, tu vois, le film, je te le donne. Mais j'ai gardé le bon. Et on s'enferme dans la voiture en attendant l'officier, enfin le sang. Et il y avait des gens morts comme ça autour de nous. Et nous, il m'a dit, surtout, tu sors pas, fais pas de photos parce qu'ils sont dingues. Ils sont dingues, on va finir comme ça. Tu vois. Et il y a un moment, pour détendre l'atmosphère, le journaliste anglais, il a dit en anglais, All that meat and no potatoes. Et l'officier qui arrive, Dabocaro, il nous voit hilar, quoi. On hurlait de rire et ça l'a désamorcé, le mec. Il dit, barrez-vous, quoi. Barrez-vous. Et on rigolait tous. Et même le chauffeur, ça faisait rire le chauffeur parce que les Ougandais, ils parlent anglais. Donc il a compris ce que le mec du Financial Times, tu vois. En fait, il venait pas de Londres. C'était le mec du Financial Times qui était basé à Nairobi, tu vois. Mais tu vois, tu vois le genre d'histoire. Oh, toute cette viande sans pommes de terre. C'est vraiment anglais, quoi, pour dire ça, tu vois. Tiens. Alors, j'avais laissé mes photos à Gamma, et ils m'ont vendu mes photos. Alors, des journaux comme Jeune Afrique, tu sais, ça doit plus exister, ces machins-là, mais dans des trucs comme ça, quoi. Dans des trucs comme ça, j'ai eu des... Alors, j'étais vachement content, mais par contre, ça me faisait pas vivre, hein, ça, c'est sûr. Hein. Voilà pour ta question, c'était l'Afrique. Donc, il y a eu le DC-10 du TA. Ça m'a posé des problèmes.
Pourquoi ?
Parce que je vais t'expliquer pourquoi. C'était terrible cette histoire. Ça a été terrible. Là, par contre, j'arrive à la fin de mon séjour chez Sigma et j'en avais marre. Je voulais me barrer. Mais je te rappelle, j'étais salarié, donc il fallait que je trouve une solution. Alors j'avais une grosse roue de secours, j'avais Hubert en rote, à qui je pouvais demander toujours des solutions. Ça, il a toujours été là. Toujours. Toujours. Qu'est-ce qui va pas ? Écoutez, asseyez-vous, on va en parler. Voilà, c'était ça. Bon. Donc, dans ma dernière année chez Sigma, il y a ce DC-10 du TA qui saute par une action terroriste de Kadhafi. tout le monde le sait. Ce point ne soulève plus de difficultés pour personne. On arrive à Niamey, et puis de Niamey, on part à Agadez. À Agadez, on loue des petits chauffeurs là, qui, au fait, qui travaillaient pour un mec, un Touareg, merci, qui travaillait pour un mec qui s'appelait, le chef d'une tribu s'appelait Mano Dayak, mais il est mort maintenant. Et Mano Dayak, il était très connu parce que il faisait partie de l'organisation du Paris-Dakar. Donc alors lui, dans le désert, il était vraiment chez lui. Donc lui, bien sûr, il a été sollicité par l'armée française pour orienter des paras venant de Bangui pour sauter sur la zone, donc il a organisé tout ça. Et il a aussi aiguillé les journalistes. Tu vois ? Pour nous emmener sur le site. Le site où est tombé le DC-10, il est tombé sur le massif de Kermit. Ou de Termite, l'un des deux. Il faut vérifier. Termite ou Kermit, je me rappellerai. Et là, après 2 ou 3 jours de bagnole dans un... C'est le désert, quoi, tu vois, c'est le désert. Et là, on commence à voir une valise, tu sais. Et puis, 1 kilomètre plus loin, un corps. On a l'impression qu'il dormait. Tu sais, tu vois une valise, genre, tu sais, une Samsonite, là, toute brillante, là, qui... Tu dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là, au milieu du désert ? Et puis, un morceau de train d'atterrissage. Et puis après, le site du crash. Les paras, ils étaient déjà là. Les paras de Bangui, qui avaient sécurisé la zone. Ils attendaient la DGAC, tu sais, le bureau enquête accident, tu sais que c'est obligatoire, tout ça. Et puis, le journaliste, alors, n'allez pas là, vous n'avez pas le droit, tout ça. Et puis, ils ont attendu les ordres et ils ont laissé les journalistes approcher du cockpit. Ils ont dit, vous ne faites pas de photos des corps dans le cockpit. Ce qu'on a respecté. Enfin, moi, j'avais trop de... J'ai pas pris les corps dans le cockpit. Et je les ai vus. Je les ai vus. Mais c'était terrible, c'était effroyable, quoi. Effroyable. Et maintenant, je préfère le garder pour moi. Je ne ferai pas de description de ce que j'ai vu. Mais je les ai vus. Et j'ai demandé à lui, voilà, je voudrais faire cette photo-là. Et il y avait la veste du commandant de bord, en dessous des blocs. Alors à l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais après, comme j'ai fait du DC-10, je savais que ça s'appelait des blocs FDSU. C'est ça qui faisait la nave du DC-10. Et les blocs FDSU, ils étaient juste au-dessus des porte-manteaux. Mais ça, à l'époque-là, je n'étais pas encore pilote, je ne le savais pas. Je le savais lorsque j'ai fait du DC-10, 4 ans après. J'ai fait une photo où on voit le manche de la veste du commandant de bord, où on voit les 4 barrettes. Et pourquoi ça m'a posé les problèmes ? Parce qu'un jour, je suis devenu pilote, et je suis devenu pilote aussi sur DC-10, et un jour, sur DC-10, je me suis retrouvé à droite, copilote, du commandant de bord, qui était le fils du commandant de bord qui avait disparu dans les... Et il m'a dit, t'étais journaliste ? Alors, on n'était pas bien vu parce qu'on était journaliste. Tu sais, les journalistes, ils sont pas bien vus. Surtout dans l'aviation. C'est toi qui es journaliste ? Alors, j'ai dit, oui. Enfin, j'étais journaliste. Et, t'écris ou t'es... J'étais photographe, mais quand t'es photographe, t'es aussi journaliste. On a une carte de presse de journaliste. Hein. Et on m'a dit que t'étais sur le truc du... J'ai dit, ouais. J'ai assumé, quoi. C'était impossible de... C'est impossible de mentir, quoi. Tu vas pas te dire que tu l'as pas fait alors que tu l'as fait. C'est pas possible. Alors j'ai dit, écoute, voilà ce qui m'est arrivé. On est arrivé sur place, je lui ai raconté tout ce que je viens de te dire en disant, ouais, on vous emmène sur le site, pas de photo des corps. Et moi j'ai fait une photo de... Alors, et là, on était dans le DC-10 quand même. On était en vol sur l'Atlantique. On était sur l'Atlantique, sur le 40 Ouest. Tu vois, il y avait des bateaux, on était à 35 000 pieds, il y avait des bateaux en dessous qui allaient aux États-Unis. Enfin, c'est surréaliste, quoi, tu vois. Et je lui décris ce que j'ai fait dans le DC-10, où son père était là, quoi. Alors, je ne me demande pas, je ne te dirai pas comment était ton père. Je ne dirai pas, je regarde pour moi. Je n'ai pas fait de photo, j'ai respecté l'ordre des officiers qui étaient là. Il m'a juste permis de prendre le vestiaire. Et parce qu'il avait vu la photo, lui, dans les journaux, il avait vu la photo de la veste de son père. Tu vois, c'est une situation... Moi, je peux dire que je la ramenais pas, quoi. Mais c'était impossible de pas lui dire la vérité, quoi. Et je sentais que... je peux dire, derrière moi, il y avait le mécanicien navigant. Je peux dire qu'on n'entendait personne. Hein. Il y avait un silence là-dedans. Bon, on s'est arrangé tous les deux, on a parlé et tout ça, mais il a bien vu que j'avais fait mon boulot. Il a bien vu aussi que je n'avais pas menti. C'est très important chez les pilotes de ne pas mentir. C'est très, très important. Il ne faut jamais mentir. Même si tu as fait des bêtises, tu le dis. Mais tu ne caches pas. Bon. Et je lui ai dit, je vais tout raconter. Je lui ai dit, on a reçu de... Tu ne prends pas les machins. Je lui ai dit, non, je le fais là. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de numérique. C'était dans un film. Tant que tu n'étais pas passé au labo, tu ne pouvais pas montrer ce que tu avais fait. Ce n'était pas possible. Hein. Mais il m'en a... je crois qu'il m'en a pas voulu, mais en tout cas, il m'a. Je pense qu'il a apprécié ma franchise, quoi. On n'est pas devenu copains, enfin, on ne copine pas, quoi. Mais il m'en a pas voulu, quoi. Il m'en a pas voulu. Par contre, c'était difficile à expliquer, quoi. Parce que moi, son père, je l'ai vu, quoi. Enfin, dis-moi ce qu'il en restait, quoi. C'était pas joli. Et puis de toutes les façons, je vais te dire, c'est pas publiable ces choses-là.
Non.
Il faut pas.
Bien sûr que non.
C'est pas publiable. Il y avait un mec qui était avec moi sur place et avec qui je m'entends très bien parce que j'ai d'excellents rapports. C'est un photographe de SIPA qui est un très bon. Alors lui, qui est très bon photographe et qui est toujours photographe d'ailleurs. Tu vois, on est différents. Hein, c'est Jacques Witt, qui est un mec super sympa et qui est bon photographe en plus. Ma femme, que tu connais, elle aime beaucoup les photos de Jacques Witt. Il dit, tiens, lui, il envoie quoi, tu vois. Et donc après, j'ai trouvé la solution pour pouvoir faire autre chose. Moi, je voulais ou faire du rock, des photos de rock, ou faire autre chose. Oui, j'ai trouvé l'aviation. Alors pourquoi? Parce que un jour, Hubert Enroth a dit, il faut absolument. Oui, ça a posé un problème à l'agence. Ça, il faut absolument qu'on puisse louer des petits avions maintenant pour faire... alors, par exemple, ils voulaient absolument qu'on pourchasse le prince Charles et la princesse Diana. Parce qu'ils partaient dans des yachts, les machins, il fallait... Et il y a eu l'idée de... Mais il y a de la formation continue, de la formation professionnelle. Et il y avait un mec à la comptabilité de Sigma avec qui on s'entendait très bien, qui a dit, mais si ça vous tente... Vous pouvez passer votre brevet de pilote et c'est déduit des impôts de Sigma. Et il y en a eu deux qui ont dit oui, c'est moi et Patrick Durand. C'est entièrement déduit des impôts de Sigma. Amenez-nous des devis, combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faut, tout ça. Et ça rentrait pour deux pilotes. Alors c'est des pilotes privés, hein. Tu rentres dans des... c'est des petits tagazos, quoi. C'est du vol à vue. Toi, tu sais ce que c'est, ton... Et ça rentrait pile... dans la fiscalité de l'agence. C'est-à-dire que toute cette formation, elle était payée par les impôts de Sigma. Et moi, j'ai découvert ce truc-là et ça m'a complètement emballé. J'étais fasciné. Et à la fin de cette formation, j'ai dit à Hubert Enroth, je voudrais continuer, mais je prends la suite à mes frais. C'est-à-dire pour passer pilote de ligne. Ça m'a pris 2 ans. Et je lui dis, si j'ai pas de boulot, je vous demande, est-ce que je pourrais revenir à la... Oui, Dominique, vous pourrez revenir à l'agence.
Et pourquoi tu étais fasciné par l'aviation?
Parce que j'ai toujours aimé l'aviation.
Ah oui.
Mais sauf que j'avais pas été à l'école longtemps. Pour moi, c'était un pari impossible. Mais là, j'avais une voie pour y arriver. Alors, j'ai un petit peu laissé tomber la littérature. J'ai fait des maths, mais c'est... Je me suis... Je sais pas comment t'expliquer, toi. Moi, je prenais un bouquin, je comprenais tout, quoi.
C'est quand même, OK, pour faire pilote privé, pas trop de problèmes. Mais pour faire pilote professionnel, c'est une autre paire de manches.
Pilote professionnel, oui, mais pilote de ligne.
Oui, pilote de ligne.
Pilote de ligne, tu as les certificats de pilote de ligne. Eh bien, moi, tu peux mettre tous les certificats, les uns à côté des autres. Ben, je les ai faits, ils sont tous datés, tamponnés de la DGAC. Je les ai tous faits en 14 mois. Ouais. Comme un cadet de l'ENAC. Ça s'est fait comme ça. D'ailleurs, Hubert, il n'y croyait pas du tout, quoi. Mais jamais vous y arriverez. Mon grand, il disait. Mon grand. Jamais vous y arriverez. Vous êtes fou, Dominique. Vous êtes marié. Vous êtes. Attends. Je vous demande si ça marche pas, est-ce que je peux revenir? Oui, je vous l'ai. Oui. Et j'ai pas trouvé de boulot. Il m'a repris. Il a tenu sa parole, quoi.
Quand t'as eu tous tes brevets, t'as...
J'ai pas trouvé de boulot. Je suis resté un an à l'attente. J'avais passé des tests dans une compagnie aérienne et ils en ont pris d'autres. Il m'a dit, écoutez, pour l'instant, on prend cela, après on verra. Ça, c'était en 94. Et puis en 95, ils m'ont pris. Et là, c'était fini.
Ce podcast a été enregistré le 7 août 2023 à Sifour-les-Plages par Michel Puech. Réalisation Jean-Louis Vinet avec la voix de Rose Monnet.